première vue, Pierre-Philippe Cader.
Bonjour François Marin.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien jusque-là.
Jusqu'ici tout va bien. En forme de retour d'Avignon ?
Oui, 3 jours en Avignon et puis après je reprends les répétitions.
Alors, Avignon, y aller ou pas, en être ou pas, telle est la question.
Bah, longtemps, je pensais ne pas y aller, parce que c'est vrai que...
Voilà,
je
fréquente... Longtemps, vous vous êtes couché de bonne heure.
Exactement. non, je pensais pas y aller, parce que je pensais pas supporter le démarchage, l'agressivité parfois, parce que certaines troupes se battent. Puis là, en fait, j'y vais parce que je dois avoir des spectacles. Donc, c'est des marathons, je vois 6 à 7 spectacles par jour. Donc, c'est assez intense. Et puis, il y a parfois des très belles surprises. Et puis, parfois, on s'ennuie un peu.
Ça reste le plus grand festival de théâtre du monde.
Oui, oui, oui.
Mais est-ce le plus intéressant?
C'est assez... je vous répondrai en Lausanne. Non, il y a le Festival de la Cité. non, c'est un festival extrêmement riche, mais j'ai pas d'autres points de comparaison. Donc, je vais être honnête. Il y a le Festival d'automne à Paris, qui est un drôle de festival, parce que c'est sur 3 mois. Mais non, c'est un lieu très intéressant, oui.
Alors, à quoi est due la réputation d'Avignon, selon vous? Et est-elle encore toujours justifiée aujourd'hui?
Vous ne m'avez pas transmis ces questions. Non, c'est l'histoire d'abord. C'est l'histoire, c'est Villars, c'est cette magie du Palais des Papes. Et puis après, il y a le fait aussi qu'il y a énormément de directeurs de théâtre qui y viennent, d'acteurs culturels, de programmateurs. Et donc, c'est l'endroit pour les troupes, que ce soit dans l'in ou dans l'off du reste, de se faire voir. Donc, c'est pour ça que c'est un lieu important pour la programmation, pour les rencontres professionnelles. Donc là, demain matin, je suis de nouveau à Avignon pour une rencontre professionnelle. Donc, c'est aussi important. Il y a des échanges, il y a des rencontres, il y a des choses qui se travaillent pour les années prochaines. On rencontre aussi des auteurs, des metteurs en scène, des esthétiques différentes. Non, c'est un lieu... très riche, très divers, pluriel. On peut être en colère, on peut être aux anges. C'est assez. Et puis il fait très beau. C'est très agréable. Et Avignon, c'est très petit. Donc en un quart d'heure, on a traversé la ville. Donc on peut sauter d'un univers à l'autre. Donc c'est.
Moi, on m'avait dit qu'en un quart d'heure, on faisait 10 mètres tellement il y avait de monde. Mais
on fait la rue des Teinturiers, oui. Qui est la rue où il y a 4 ou 5 spectacles, théâtres.
Comment voit-on 6 pièces par jour? Comment est-ce que c'est humainement possible? Vous les voyez jusqu'au bout?
Le plus que j'ai fait, c'était 8. Oui, j'en vois jusqu'au bout. Et l'année passée, dans la Provence, qui est le journal local, il y avait un gars qui avait fait un concours pour voir le plus de pièces possible. Il était arrivé à 12. C'est-à-dire qu'il avait le vélo pour aller d'un endroit à l'autre. Il partait juste au début des applaudissements, etc. Non, c'est possible. C'est vrai que je fais ça 6-7 jours. Alors un ami comédien m'a dit qu'il fallait faire un peu de diète, ce que j'ai fait. Donc je vais à Villeneuve-les-Avignon me reposer un jour, me balader, changer d'atmosphère. Et puis au bout de 5-6 minutes, on sait si ça peut rentrer chez nous. Enfin, quand je parle de chez nous, c'est le théâtre de Valeyracion. Oui. Et puis si c'est intéressant, etc.
Mais alors vous ne restez pas forcément jusqu'au bout
si,
de la pièce.
Si, je reste jusqu'au bout, parce
même
qu'on
si vraiment, oui.
Et puis la grâce peut frapper n'importe où. Non, c'est une question de respect envers les comédiens.
Alors, et pour nos auditeurs, il faut expliquer que certains lieux sont extrêmement petits, que tout se loue en Avignon pour proposer une pièce de théâtre. Oui. Ça peut être un bout de garage, je dis bien un bout de garage, non pas le garage en entier, et que se succèdent toute la journée et presque toute la nuit quantité de troupes et de pièces qui se présentent là.
Alors, depuis 2003, il y a quelque chose qui a changé en Avignon dans toutes ces petites salles, c'est la climatisation. Mmh. Et donc, c'est à partir de 2004 qu'il y a la climatisation. Avant, il n'y en avait quasiment pas, donc c'était vraiment très très pénible. Donc imaginez le fameux été 2003. Je ne sais pas s'il y a eu des morts dans les théâtres, mais c'est possible. Et puis, il y a une autre chose qui est plus difficile en Avignon, surtout lorsqu'on est grand, c'est la largeur des sièges et de l'espace qu'on a pour les jambes. Et ça, c'est quand on est grand, enfin comme nous deux, c'est très pénible.
Ça, c'est assez récurrent au théâtre.
Non, disons dans les théâtres de Suisse romande, on a de la place pour les jambes en général.
Pas tous. Et certains même ferment la climatisation en fonction des pièces parce que ça fait un léger bruit qui gêne le metteur en scène.
Oui.
On a vécu ça il n'y a pas si longtemps, c'était assez pénible.
Des noms.
Je vous dirais ça. Entre nous. François Morin, vous l'avez dit, vous êtes le directeur du théâtre de Valeyracion. Donc ceci explique votre présence en Avignon pour aller chercher le théâtre de demain.
Théâtre de demain. Je n'irai pas jusque-là. Non, pour chercher des bonnes pièces de théâtre de qualité, il y a à peu près 1100 à 1200 spectacles. Donc il y a le choix, j'y vais pas seul, je suis accompagné par deux programmateurs et on en voit en général 80 à 100 pour en garder 10. Donc voilà. Mais on ne va pas dans tous les lieux, ni dans des tout petits garages. Donc on fait notre choix.
Est-ce que vous avez déjà assisté, ce sera ma dernière question sur Avignon, à ces pièces fleuves qui durent 8 ou 12 heures, sous-titrées en suédois en général, écrites par des auteurs
Oui, j'ai pas assisté ça en Avignon, parce que dans le off où je vais, c'est surtout très calibré, c'est une heure et quart. La pièce la plus courte, c'était 35 minutes. Et puis des grandes pièces, oui, j'ai assisté, mais c'était pas en Avignon. C'était à Genève, c'était Souliers de Satin par Olivier Pille, Souliers de Satin de Claudel. Et c'était une expérience formidable. C'est vraiment autre chose. Alors, je n'ai pas assisté à la nuit, il y a 2 ans. Je le regrette parce que c'est vraiment un auteur que j'aime. Et puis, c'est vraiment une autre expérience.
Je parlais de théâtre de demain parce que vous êtes très attaché au texte contemporain. La base de votre travail, bien évidemment, ça paraît être une lapalissade quand on le dit, c'est le texte. Mais on sait que certains metteurs en scène utilisent le texte vaguement comme un prétexte pour...
Comme un matériau.
Un effet visuel sur une scène face à des spectateurs. Oui. Pour vous, l'important, c'est le texte.
Oui, c'est pour moi... j'ai peut-être pas forcément l'imaginaire ou la dextérité de certains, donc je m'appuie sur le texte, parce qu'il y a un auteur, enfin, pas n'importe quel texte, un texte qui est bien écrit, qui a une langue, et je m'appuie sur cette langue pour essayer de développer les imaginaires des comédiens d'abord, et puis du public. Et c'est la force de la parole est, à mon sens, plus importante que parfois des images. Parce que les images, elles sont en 2 dimensions, ou pas en 3, mais elles ne sont que là. La force de l'imaginaire est beaucoup plus importante.
Il y a le texte et le choix des comédiens. En l'occurrence, Jacques Michel et Marc Majorat qui ont déjà interprété cette pièce.
Oui. C'est la troisième saison.
Le passé, c'est la troisième saison. Il est important aussi que le personnage, le comédien plutôt, soit en adéquation avec le texte. On ne met pas n'importe qui sur n'importe quel texte.
Ça dépend des écoles de pensée, on va dire. Mais non, mais là, pour cette pièce, il fallait vraiment une différence d'âge. C'est une relation entre un père et un fils. Et Jacques est un tout jeune retraité. Et Marc a une petite quarantaine. Donc, c'était idéal de se rencontrer. Donc, et ils se rencontrent, ils s'apprécient. C'est une belle rencontre humaine d'abord entre nous autour de cette pièce. Et puis c'est un bonheur puisque elle rencontre le public, elle rencontre le désir aussi des directeurs et programmateurs. Donc c'est très bien.
Cette pièce, je le rappelle, c'est le grand retour de Boris S. à partir de ce soir jusqu'au 20 à l'Orangerie à Genève. On vous retrouve d'ici quelques instants. François Marin, ce sera juste après Jean-Louis Aubert.
Sous les ruines des villes, qu'allons-nous leur laisser? Si la terre est hostile, qu'allons-nous leur laisser? Ni de goût, ni de sens, qu'allons-nous leur laisser? L'absence ou la présence, nous pouvons leur donner. Information difforme, qu'avons-nous à leur dire? Des désirs et des manques, qu'allons-nous leur laisser? Au mieux des comptes en banque, qu'allons-nous leur laisser? Juste l'amour ou le manque, nous pouvons leur donner. Des tonnes de déchets et quelques jouets cassés, des rêves dérisoires. Des nuits embrumées, qu'allons-nous leur laisser? Le culte de la science, qu'allons-nous leur laisser? Oui, au cœur du silence, qu'avons-nous à leur dire? C'est le choix des larmes que nous pouvons donner, que leurs yeux nous désarment et que nos dieux se tâchent. Quel autre recours? terre est hostile. Ni de goût, ni de sens. Oui, au cœur du silence.
Jean-Louis Aubert, qu'allons-nous leur laisser ? L'âge venant, Jean-Louis Aubert se pose des questions. Il se dit, mais dans quel état allons-nous laisser cette planète et les cerveaux de nos enfants ? Notre invité est François Marin, metteur en scène. Je rappelle donc cette pièce, Le Grand Retour de Boris S., écrite par Serge Kribus, auteur belge, avec sur scène Jacques Michel et Marc Majorat. C'est à partir de ce soir et jusqu'au 20 juillet. Si vous êtes gentil, nous vous offrirons même des places. Enfin, en tout cas, nous vous dirons comment obtenir quelques places pour aller voir cette scène dans Clangeray à Genève. On disait de vous, François Marin, enfin, c'est en gros Jérôme Maizeau qui était un de vos camarades de classe au collège de Saint-Maurice, oui, oui. Que vous étiez déjà maître du sketch, que vous égayiez déjà vos bancs de latiniste en herbe. Et pourtant, vous avez tenu à poursuivre des études de lettres pour ensuite aller
rassurer
vers le théâtre.
Rassurer mes parents.
Rassurer vos parents, c'est ça. C'était pas pour vous du tout, ça n'avait...
C'est un peu... Non, c'est à la fois une boutade et c'en est pas une. C'est clair que faire du théâtre, lorsqu'on est issu d'une famille, on va dire, de petite bourgeoisie artisan, c'est pas évident. Maizeau parle aussi ensuite de Bourdieu, de la trahison de classe, donc... Il y a de ça. En même temps,
que faisaient vos parents, vous dites artisan.
Mon père est marbrier, donc mon père fait des tombes, fait le service après-vente, on va dire, parce que ma mère est était infirmière, donc elle s'occupe des vivants. Et mon père s'occupait des morts. Donc c'est pour ça que j'ai dit une fois aussi que c'est normal que j'aille au théâtre, puisqu'on essaie de soigner les âmes, ouais. Mon frère est psy, et aussi de faire relever les morts dans les théâtres. Ouais. Donc, voilà. Mais en même temps, récemment, je parlais avec un ami, Mathieu Menghini, qui est un grand féru de médiation culturelle, que, en fait, lui et moi, il est fils d'immigrés italiens, on est les purs produits de la médiation culturelle, puisque nos parents n'étaient pas du monde culturel ou du CERI, donc... Alors, je ne sais pas si c'est votre cas peut-être aussi, mais tout à coup, on parle de médiation, c'est nous, quoi. C'est grâce au passage avec des parents qui avaient des ambitions culturelles, qui nous faisaient écouter, du Mozart ou du Beethoven le dimanche matin, qui nous faisaient acheter des encyclopédies et des trucs comme ça. Donc voilà, je me suis un peu égaré dans... Maizeau, c'est un ami. Dans son dernier bouquin, ça m'a beaucoup touché, son bouquin, son hommage à Pasquali. Et parce qu'il parle aussi de Saint-Maurice et de l'héritage qu'on a de cette école. Donc c'est important. Et le fait de mêler l'humour avec la littérature, ça me paraît normal. Enfin, c'est la vie aussi. Et puis, il faut aussi un peu rigoler, non ?
Mais c'est générationnel, vous pensez ? Ou dans le sens que voilà, vous faites partie de cette génération des Quadra et Plus qui ont...
Mon âge, il ne faut jamais dire ça.
Quadra et Plus, ça va, ça reste raisonnable. Ça va. La fourchette basse, c'est
la fourchette basse, oui.
Qui, semble-t-il, ont un rapport au théâtre qui était peut-être pas forcément le même que celui de leurs aînés immédiats, on va dire de la génération qui vous a précédé, pour qui le théâtre était chose sérieuse, très politisée, très politique même, alors que peut-être que vous apportez, vous, de la dérision.
Je crois pas, enfin, je vais dire ça comme ça. Je pense, c'est vrai qu'il y a toute une époque où les metteurs en scène étaient très politisés, il y avait des oppositions entre les Brechtiens et les Stanislavskiens, enfin les gens qui sont plutôt tenant de la psychologie et d'autres de la distanciation, d'un changement du monde. Moi je suis issu je suis un brechtoïde, donc de papa Stégère, donc qui est quelqu'un de très important
André
pour
Stégère.
Moi. André Stégère, oui. Metteur en scène, pédagogue de Suisse romande, qui est toujours parmi nous. Et qui
dont
a toujours...
les écrits sur le théâtre sont toujours d'actualité.
Oui, tout à fait. On en a fait des entretiens ensemble, du reste, qui sont très riches et vraiment, c'est quelqu'un d'important. J'ai un lien de filiation avec lui, avec Hervé Loachmoll. Ce sont des gens importants. Hervé Loachmoll, futur prochain directeur de la Comédie de Genève. C'est des gens vraiment importants de qualité. Et qui sont l'un comme l'autre très engagés politiquement, mais l'un comme l'autre sont des déconneurs. Alors on ne le pense pas en voyant, enfin André Stégère j'imagine un petit peu, mais Hervé Loachmol a l'air très sérieux alors que c'est quelqu'un qui aime bien rire, qui est capable de vraies folies. C'est un monsieur de Jean Hermier aussi, c'est des gens qui sont capables de vraies folies. C'est des gens qui ont vraiment des grandes qualités d'humour, de jovialité. Mais je pense ne pas faire partie de cette catégorie de metteurs en scène qui travaillent sur la dérision, plus exactement sur l'ironie plutôt que sur la dérision. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'un principe de réalité. Donc on peut rire, mais je ne suis pas revenu de tout. Donc voilà, si je peux faire une petite nuance. Donc il n'y a qu'une autre génération qui rit un peu de tout et c'est pas, je n'en fais pas partie.
Donc vous n'êtes pas un cynique ?
Non,
du tout.
Non, je ne pense pas. Je trouve que la vie est formidable et j'ai envie de la croquer, de la vivre.
Je vous posais cette question aussi par rapport à le rapport que vous avez au travail, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut envisager ce métier sous différents aspects. L'un des plus caricaturaux, c'est bien sûr le metteur en scène tout-puissant qui bouscule ses comédiens. Vous êtes, me semble-t-il, et d'après ce que j'en sais, totalement à l'opposé. C'est-à-dire quelqu'un qui, au contraire, essaie de faire les choses dans la légèreté, mais que ça se fasse quand même.
Bah, c'est important qu'on a un spectacle à faire. Hein. Donc, il y a une date butoir auquel on ne peut pas échapper. Et puis, ça se construit à plusieurs. Donc, j'ai un rapport au pouvoir. J'aime le pouvoir, ça c'est clair, vu les postes que j'occupe. Mais j'estime que le pouvoir doit être partagé. Et qu'il faut prendre les meilleurs. Enfin, je suis peut-être cynique parce qu'en fait, je travaille avec des gens très compétents autour de moi et certainement plus compétents chacun dans leur domaine. Et donc, je puise sur leurs compétences pour forger, être le chef d'orchestre de la pièce.
Diriger, c'est savoir s'entourer aussi.
Exactement. Voilà. Et s'entourer des gens plus forts que
bien
soi.
Bien sûr.
Parce que s'ils sont moins forts, c'est pas intéressant.
Donc il faut aussi faire un petit peu régner la terreur pour pas donner envie de prendre votre place. C'est
oh là
un principe.
Là.
Quelques purges de temps en temps, allez hop.
Je crois qu'il n'y a pas de purge auprès de moi, puisque dans le sens que j'ai pas été stanilien, puisque je crois qu'avec l'éclairagiste, on a dû faire, William Lambert, on a fait, je crois, 21 spectacles ensemble depuis 96, donc ça fait quand même pas mal. Et puis, il y a un des comédiens qui a joué, je crois, 8 ou 9 spectacles. Donc, non, je suis plutôt dans
la fidélité, alors. On va
dans une certaine fidélité. Mais c'est bien de partir et de se retrouver aussi.
Comment se renouvelle-t-on ? Question un peu vaste, François Marin. Mais alors, on a compris que vous allez en Avignon pour voir des spectacles, décider un peu de ce qui pourra éventuellement venir au Théâtre de Valération. On s'imprègne aussi, on apprend des autres. Comment est-ce qu'on se renouvelle dans son travail ? Qui est votre juge, en fait ? Puisque vous êtes en haut de la pyramide.
Donc, comment on se renouvelle ? En vivant simplement, en vivant des expériences, en lisant. Alors, j'essaie de lire beaucoup de pièces contemporaines ou d'autres choses, hein, pas que du théâtre, rassurez-vous. D'aller voir d'autres spectacles, d'autres esthétiques, d'aller dans des expositions, de découvrir. J'ai la chance aussi d'avoir des amis et des amis qui me font découvrir des choses que je connais pas, soit l'art contemporain, la musique, l'opéra, enfin des choses. Voilà, donc j'aime bien découvrir et être surpris. Après, comment est-ce qu'on juge ? Je pense que honnêtement, si on est au clair avec ce qu'on fait, on sait si, comme disait un de mes camarades, on a marqué un corner ou pas. Et puis on essaie de faire au mieux. Alors après, on peut être de mauvaise foi face à un journaliste ou un critique en disant « mais non, c'est très bien ». Mais au fond de soi, on sait qu'il y a des choses qui sont pas très réussies, on n'a pas pu mener l'équipe jusqu'où on voulait, ou il y a d'autres types de problèmes. Mais ça, c'est quand on est honnête envers soi-même. Je pense pas. Enfin, en plus, j'ai la chance d'avoir des gens exigeants avec moi, que ce soit dans ma vie privée et que ce soit aussi autour de moi, la scénographe ou l'éclairagiste sont des gens qui sont exigeants. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on me le dit. Alors, je parlais de mauvaise foi. J'ai une petite anecdote sur un spectacle. Il y avait une scène qui ne fonctionnait pas. Et les comédiens disaient « ça ne fonctionne pas ». La décoratrice disait « il y a un truc qui ne marche pas ». Puis moi, je leur disais « mais non, ça va très bien ». On était à 2-3 jours de la première et ça m'embêtait de devoir répéter encore et encore. Voilà, donc je faisais un peu de mauvaise foi. Puis finalement, le lendemain, je dis « bon, on va quand même essayer ». Puis on a trouvé une solution qui était bien meilleure. Donc la seule personne qui résistait, c'était moi, bêtement. Et puis, au bout d'un moment, je me dis « en ayant fait beaucoup de mauvaise foi, on dit « bah finalement, ils ont raison, on va essayer ». Et puis ça sert toujours d'essayer. Puis après, on peut voir, c'est le plateau qui donne la réponse. Donc voilà, j'avoue, je suis parfois de mauvaise foi.
Mais vous connaissez vos tics de metteur en scène? Vous les avez repérés?
C'est toujours difficile. Oui, enfin, on parlait de renouvellement. Si j'ai l'impression de refaire le même spectacle, oui, je m'ennuie, quoi. Donc là, avec la scénographe aussi, on avait sur un spectacle, on fait le décor et puis on avait quelques soucis budgétaires. Et elle me dit, tu sais, on peut aussi faire comme ça. Mais ça, on a déjà fait. Et ce n'est pas intéressant. Donc c'est en même temps, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui sont de l'ordre du tic ou de la redite, ben j'ai heureusement des gens autour de moi pour qu'ils me le disent. Alors ben, je suis obligé de changer, même si je renacle un peu au début. Naturellement, parce que je suis le chef, donc c'est normal qu'on dise non d'abord.
Bien sûr.
Et puis ils ont raison, donc voilà.
Il y a parfois des comédiens, lorsque l'on est metteur en scène, qui sont très difficiles à gérer, à comprendre, ou qui ont une si forte personnalité qu'au fond, voilà, on leur donne à peu près des indications de déplacement, et puis le personnage fait le reste. Je pense notamment à Jean-Quentin Chatelain, qui a cette façon de parler, cette élocution. Oui. Je l'ai vu dans plusieurs pièces. Je ne dis pas qu'il était semblable dans toutes les pièces, loin de moi cette idée, mais il a cette personnalité-là, comme d'autres comédiens. Mmh. Mais là, je n'ai pas de nom qui me vient en tête tout de suite, à part le sien, qui impose leur être entier. Quoi. Ils sont comme ça. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à ce genre de monstre, entre guillemets?
Non, ça m'est arrivé essentiellement de trouver face à des bons comédiens, même des très bons comédiens, qui ont une personnalité forte, qui ont un univers fort. Je pense à Raoul Teuchère, à Jacques Romand ou à Jacques Michel. Ce sont des comédiens qui ne viennent pas sans connaître la pièce, sans avoir un avis, sans avoir une compréhension. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, on confronte nos compréhensions de la pièce. En même temps, c'est leur métier. Donc, ce qu'ils proposent, c'est parfois plus fort que ce auquel j'avais pensé. Après, mon job, c'est de dire oui ou non, de travailler ensemble et de voir si ce qu'ils proposent est en adéquation ou pas avec le projet global. Et moi, j'aime bien avec des gens comme ça qui ne font pas ce que je leur demande. C'est un peu provocateur ce que je dis là, mais c'est-à-dire que même si j'ai fait le conservatoire, etc., ce qui est bien avec un comédien, c'est qu'il est plus fort que moi. C'est comme une scénographe qui faisait exactement ce que je lui demandais, mais c'est très narcissiquement intéressant. Mais la scénographe avec qui je travaille, elle propose des choses très différentes auxquelles je n'avais jamais pensé. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'après, je suis obligé de réfléchir pour ce qui me plaît dans sa proposition et ce qui me déplaît. La même chose avec un comédien fort qui amène... Si je dois argumenter avec lui ou analyser ce qu'il propose en ce qui me touche, ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas. Donc on est dans un dialogue. Et puis, je crois avec ces comédiens-là, il faut juste leur indiquer la voie. C'est un travail d'accompagnement. Ils se mettent au service aussi du projet ou du texte. C'est un travail juste d'accompagnement. Si ça devient un rapport de force, c'est-à-dire lui a raison ou moi j'ai raison, c'est pas très intéressant.
Avec ce paradoxe que parfois des comédiens ont de telles personnalités que c'est difficile aussi de les démouler, si je puis dire.
Oui, mais après, il faut choisir de travailler ou pas. Oui. Ou se sentir... la question, elle est aussi là, c'est-à-dire face à des personnalités comme Jean-Quentin Chatelain, c'est quelqu'un qui a un univers, qui amène un univers qui est très fort, hein, comme vous l'avez dit.
Raoul Teuchère aussi, par ailleurs.
Raoul aussi,
vous avez entièrement raison.
Mais il faut aussi, face à eux, avoir travaillé et
avoir du répondant.
Il faut avoir du répondant et qu'il y ait un respect mutuel. Et j'avoue, avec Raoul, c'est un bonheur de travailler. C'est un Stravidivarius. Tous les autres comédiens, Jacques Michel, Marc ou Nicolas Rossier, avec qui on va travailler prochainement, sont des Stradivarius. Donc, ils sont tellement forts. Je pourrais aussi parler des femmes, naturellement. Barbara Tobola ou Caroline Alto, c'est un bonheur de travailler avec ces comédiennes aussi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à leur dire. Après, il faut juste qu'on recadre, qu'on voie bien les limites, qu'on discute. Mais si on donne la note, le mode majeur ou mineur, voilà. Puis en même temps, il faut savoir ce qu'on raconte. C'est juste ça. Un comédien, c'est comme un enfant. Il a juste besoin qu'on lui dise où on est, ce qu'on fait. Et puis quand il sait qu'il y est... Quand est-ce qu'on mange? Oui, quand un comédien, il sait ce qu'on raconte. Quel est l'univers dans lequel on est? Quelle est l'esthétique? Comment est-ce qu'on raconte l'histoire? Ben, il fait son métier et ils le font bien. Donc, je disais, on se disait hors antenne que plus on avançait, moins on savait. Et moi, j'ai l'impression que plus j'avance dans ce métier, moins je travaille. Alors, c'est pas vrai, naturellement. Mais j'ai la chance de pouvoir travailler avec des comédiens qui sont vraiment formidables.
C'est assez indéfinissable, au fond, parce que c'est un travail, mais c'est difficile de dire que c'est un travail. Enfin,
oui, c'est pas la mine. Hein.
C'est pas la mine.
Non, c'est pas la mine. Les conditions autour, c'est-à-dire les conditions sociales, financières, les conditions de vie des comédiens en Suisse romande sont extrêmement difficiles. Hein. Il faut pas la loi sur le chômage qui a été aménagée, mais était très très
telle qu'elle était prévue, elle aurait été extrêmement coercitive.
Tout à fait. Ouais. Mmh. Et heureusement, il y a eu quelques aménagements, des gens qui sont mobilisés dont nous sommes pour faire quelques améliorations et c'est bien. Mais il n'empêche que c'est un métier difficile. Joël Joanneau, qui est un metteur en scène et un auteur, disait que lui, maintenant, il disait aux gens, il déconseillait de faire du théâtre. Ben, c'est un suicide social, c'est vrai. Si on imagine, si on veut faire carrière en imaginant ayant sa maison, sa piscine, sa Mercedes, il ne faut pas faire du théâtre. Mais si c'est en même temps, si au bout du compte, vous voulez quand même en faire, ben, faites-le. C'est un peu particulier comme manière de dire, mais c'est vrai que c'est un métier extrêmement difficile. Et en même temps, ils sont dans la lumière, ils racontent des magnifiques histoires. Donc voilà.
François Marin est notre invité, metteur en scène donc de cette pièce, Le Grand Retour de Boris S. à l'Orangerie à partir de ce soir et jusqu'au 20, une pièce signée Serge Kribus avec en scène Jacques Michel et Marc Majora. C'est l'histoire d'un père qui va chez son fils parce qu'il a un problème d'eau chaude.
C'est comme ça?
C'est comme ça.
Oui,
c'est un prétexte.
C'est un prétexte. Oui. Et il a un problème d'eau chaude. Il va surtout jouer Lear, le roi Lear. Mmh. Et il arrive chez son fils et puis il arrive juste au mauvais moment. Son fils a perdu son travail, sa femme est partie avec ses deux enfants. Donc il est juste un petit peu dans une situation un peu délicate. Et ils ne savent pas comment se parler, ils s'engueulent souvent. Ils sont comme ces gens qui sont un peu handicapés affectifs. Hein. C'est difficile de dire à son père qu'on l'aime. Alors on l'engueule ou bien on lui dit des choses. Et puis ils sont les deux juifs, donc ils se questionnent aussi par rapport à la mémoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier? Est-ce qu'il faut en parler? Donc finalement ils vont se retrouver quoi.
Ne dites pas la fin.
Ah, faut pas dire la fin. Non, la fin. Ils vont essayer de se parler, quoi.
Voilà, ça va pas finir dans un bain de sang.
C'est ça finit dans une prison, ça c'est vrai. Mais en fait, avec une scène rocambolesque de fuite dans la prison qui est assez rigolote.
Voici Claire de Namur, Bang Bang Bang.
On n'envisage plus grand chose, tu sais. On ne croit plus aux adages du temps qui effacera les crevasses, qui ramassera la crasse au fond.
13h, 14h, sur la première, à première vue.
Qu'est-ce qui nous sonne au moment de s'y croire? Qu'est-ce qui nous traîne au fond dans la poussière? Je ne connais pas les aveux. Je me fous des adieux au fond. Bang, 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 il faut du courage. Bang, 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 encore du courage. Bang, 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 il faut du courage. Bang, 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 encore du courage. Pour encaisser table. Je ne suis pas de ce pays. Je ne connais rien ici. Au fond. Bang, bang, bang. Il nous faut du courage. Bang, bang, bang. Encore du courage. Bang, bang, bang. Il nous faut du courage. Bang, bang, bang. Encore du courage. Pour encaisser. Rien n'en vaut la peine, même si l'on part et que l'on n'a pas de veine. J'aimerais que tu saches
foutrait tout en l'air, sans fin. On envisage plus grand chose, tu sais. On ne croit plus aux adages du temps qui effacera les crevasses, qui ramassera la crasse au fond.
Claire de Namur, Bang, 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 c'est à première vue sur la première à 13h35 et en compagnie de François Marin, notre invité, metteur en scène de théâtre. Je vous rappelle donc cette pièce, Le Grand Retour de Boris S, signé Serge Cribus, beaucoup de S, création de la Compagnie Marin. C'est donc à l'Orangerie à Genève. L'Orangerie, c'est dans le parc de la Grange à Genève, bien sûr. Nous avons par ailleurs quelques invitations à vous offrir. On vous donnera un numéro de téléphone d'ici quelques instants, le temps que nous réglions un problème technique. En scène pour cette pièce, Jacques Michel et Marc Majorat. Une histoire de fidélité entre vous, François Marin, et ses comédiens. Pour revenir à ce que l'on disait avant d'écouter Claire de Namur.
Eh bien, Marc, depuis 96, a fait 7 ou 8 spectacles avec moi. Il est dans le prochain. Il était dans celui qu'on a fait cet automne. Enfin, non, ce printemps. Et puis là, c'est la troisième saison. On l'a créé en 2008, ce spectacle. Et puis, on l'a rejoué en mars l'année passée.
Fin 2010 aussi. Fin
2010. C'est bien. Ouais. Vous savez mieux que moi. Et puis
vous avez tourné avec.
Oui, on a tourné en Suisse romande et c'était vraiment très bien. Et puis là, ce qui est assez rare, à mon sens, c'est que les deux acteurs ont vraiment un désir de retourner ce spectacle. Et on a aussi eu des expériences en représentation scolaire très, très fortes. Donc, s'il y a des enseignants, des programmateurs pour des scolaires, ben venez, on a un désir de reprendre ce spectacle. Parce que Jacques Michel disait que c'est un spectacle qui pourrait être joué sur 10 ans, parce qu'ils ont un tel plaisir à être sur scène. Et puis, chaque année, à chaque reprise, on retrouve des choses différentes. Il y a des choses qui se développent, le spectacle, ça doit faire la 50e qu'on le joue, là, on va dépasser les 50, et il y a chaque fois des choses qui apparaissent d'un point de vue. Parce que c'est un texte aussi sur la culture. Il raconte dans la pièce comment, lors des moments un peu de tristesse ou de dépression, le père Boris a passé par les camps de concentration, enfin, il a perdu une partie de sa famille là-bas, mais dans ces moments de tristesse aussi professionnelle, ben, Mozart, le concerto numéro 19, le rendait fou de vie, quoi. Et il parle aussi de comment il a découvert le théâtre. Sa femme lui a lu toute la pièce, La Cerise de Tchekhov. Il dit, on a ri, on a pleuré, c'était beau. Et donc, il y a aussi tout un message, si je puis dire, sur la culture, sur Mozart, sur Tchekhov, sur la littérature qui nous fait du bien lorsqu'on n'a pas tout à fait le moral.
La religion du livre.
Exactement. Il n'y a pas de hasard. Cioran disait, qui est un écrivain roumain, disait que toute la philosophie ne pouvait rien par rapport à une seule phrase de Job, ou bien une phrase musicale un cri de Job ou une phrase musicale de Bach. Je crois qu'il a mis raison, quoi. C'est la force de la culture, hein. On écoute Bach ou Mozart et la vie est vraiment différente, quoi.
Et tout est dit, alors?
Mozart, ce qu'il faut en dire, c'est qu'on peut rien en dire. C'est une citation de la pièce. C'est vrai, c'est tellement beau. Enfin, voilà. Et puis, c'est une très belle pièce sur le rapport père-fils. Comment se dire les choses? Et ils s'engueulent et ils finissent par dire, bah, je suis un con, j'arrive pas à dire à mon père que je l'aime. Et puis, je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là à lui dire, bah, papa, je t'aime. Donc, c'est aussi, ça parle de ça. Comment entre hommes, on a de difficulté à se dire les choses. Alors, entre hommes et femmes, c'est des fois compliqué. Mais voilà, simplement...
Entre mère et fille aussi.
Sans doute, mmh. il y a des exemples. Et puis c'est aussi une pièce sur le comment changer le monde ou améliorer le monde. Mmh. Il parle d'un de ses camarades qui, lors d'une représentation de Mélite de Corneille, a changé le texte pour parler de la guerre du Vietnam. Alors son fils dit « Ah, c'est génial !» Puis demain, dans quel con, on a été virés de tous les deux, quoi. Il pensait provoquer des débats, non, rien. Et en même temps, il dit une chose très belle sur le théâtre, il dit « Moi, j'ai voulu changer le monde, c'est pas venu, le monde n'a pas changé. » Puis j'ai trouvé que la chose la plus belle, c'était de mettre une casserole sur ma tête et d'aller gueuler Shakespeare dans les théâtres. Et c'est vrai, parce que c'est peut-être comme ça qu'en faisant du théâtre, en faisant peut-être cette pièce, hein, on peut faire réfléchir ou changer un petit peu une personne ou deux et toucher des spectateurs et qui en toucheront d'autres, etc. C'est plus modeste hein, comme projet politique, mais c'est par cette force de l'émotion ou de la réflexion, tout à coup, que ça nous amène à réfléchir sur notre position d'homme. Dans le monde.
Mais est-ce que là, ça ne consisterait pas à prêcher les convertis, si je puis dire ? On pourrait imaginer qu'à partir du moment où on est spectateur de théâtre, c'est que déjà, on a quelques interrogations, éventuellement, ou qu'on veut simplement se distraire, mais...
Non, tous les spectateurs de théâtre ne sont pas tous des lecteurs de Télérama, des auditeurs de France Inter ou de la première de votre émission. Donc il y a d'autres spectateurs de théâtre qui viennent, et puis quand on fait des scolaires, on a vraiment tout le monde et de l'importance des représentations scolaires pour ce spectacle ou pour d'autres. Parce que c'est peut-être grâce à l'école publique, comme on dirait, qu'on peut amener la culture, le livre, la musique classique ou la musique au sens large ou le théâtre auprès d'enfants ou de populations qui n'ont pas forcément cet accès. C'est vraiment, vraiment important. Moi, je suis aussi enseignant, donc pour moi, c'est vraiment important de dire que les enseignants ont une tâche qui est gigantesque, c'est d'amener cette petite graine de culture qui va peut-être amener, ça peut être un film hein, aussi, qui va peut-être amener quelque chose de différent. En Avignon, j'ai vu un très beau spectacle qui raconte l'histoire d'un gars marocain qui arrive en France et que lui, il a été sauvé par la culture simplement en allant comme projectionniste dans un petit cinéma de Picardie. Et c'est vrai que tout à coup, ce garçon qui n'a aucun accès à la culture, ses films lui donnent, les films sans doute américains, tout ce qu'on veut, mais lui donnent un autre monde. Donc il pouvait être autre chose que ce petit garçon marocain.
S'envisager différemment.
Exactement.
C'est aussi une des propositions que vous faites finalement.
Oui, oui, et c'est ça la force du théâtre.
Ouais.
Et on peut se reconnaître et puis en même temps se méconnaître ou se reconnaître dans l'autre. Et c'est ça qui est vraiment important. Et avoir cette... L'un des problèmes sur la culture, c'est qu'on va toujours vers ce qui est le plus connu. Et comment, lorsqu'on est abonné à un théâtre, on est obligé d'aller au théâtre sans savoir ce qu'on va voir. Et c'est, je trouve, une des forces des abonnements de théâtre, c'est que les gens viennent et ils savent pas forcément ce qu'ils vont voir. Ils vont découvrir des choses et peut-être des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé. Mmh. Et c'est justement une des forces. Comment, en tant que directeur, on peut donner confiance aux spectateurs.
Oui, parce que j'allais vous le dire, il y a quand même cette relation de confiance incroyable qu'il y a entre l'abonné
et le directeur. C'est vraiment la chance que j'ai à Sion. C'est un public formidable, qui est très curieux, qui est très poli. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas, mais il s'interroge pourquoi ça ne plaît pas. Ils disent pas c'est de la merde, c'est nul. Ouais. Ils disent, mais il y a un truc qui n'a pas marché, je suis mitigé, j'aimerais savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est vraiment intéressant les discussions qu'on peut avoir. Et puis, ils suivent. Et puis, le fait de budgétairement, à Valère, on n'a pas forcément de grands moyens pour prendre des grandes stars. Donc, on est obligé d'être un peu inventif dans la programmation. Et puis, les gens nous suivent, même s'il n'y a pas un nom connu, que ce soit d'auteur, de pièces de théâtre ou sur scène. Et les gens viennent. Et pour moi, ce n'est pas très important le nombre de gens qu'il y a dans la salle. C'est plutôt l'état d'esprit dans lequel ils sortent. Et donc, je travaille sur la déception. C'est-à-dire que les gens qui vont dire « Ah, mais on a vu un truc formidable, t'aurais dû venir. » Et ils disent « Ah zut, j'ai manqué ça. »
J'ai manqué, oui.
Voilà, donc c'est plutôt ça. Et là, le public augmente, les gens nous font confiance et c'est vraiment bien, quoi.
Vous expliquez cet engouement qu'il y a toujours pour le théâtre et encore plus en Suisse romande où les taux de remplissage sont phénoménaux. Vous l'expliquez, cet engouement, est-ce que ça veut dire qu'il y a une faille quelque part ou que l'information est en faillite sur certains sujets et qu'il faut les expliquer autrement ? On ne peut pas se contenter de l'information brute. Peut-être que le roman, peut-être que le cinéma, peut-être que la pièce de théâtre nous raconte l'histoire notre monde peut-être de manière plus intime et plus efficace.
Alors moi, je souhaite que en tout cas, les taux de remplissage continuent à être... qu'il y ait toujours cette curiosité, notamment auprès des jeunes. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive avec les arts vivants, comme on dit. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des êtres humains sur une scène et on a toujours aussi la peur de la chute ou de l'accident qui nous donne, qui est en lien avec le cirque. Hein. Mais non, je pense qu'il y a en Suisse romande une densité culturelle qui est incroyable. Mmh. Et puis, il y a une curiosité. Il y a sans doute, on recherche au théâtre quelque chose qui est de l'ordre de la narration, du conte. L'idée d'être ensemble aussi. Ouais, ça me paraît important. Voir du théâtre seul, c'est possible parce qu'on est entouré.
Ouais.
Pour moi, aller au cinéma seul, c'est toujours difficile parce que je suis vraiment dans un rapport solitaire. J'ai besoin d'être accompagné pour aller au cinéma, pas au théâtre. Au théâtre, je sais que je fais partie d'une communauté qui écoute. Et quand une salle respire, alors on le sent qu'on est sur scène, très fortement. Et puis quand on est dans la salle, on sent il y a des silences qui sont très, très, très parlants, si je puis dire. Et c'est un bonheur pour des comédiens. Et à Sion, encore une fois, les comédiens qui jouent sont très sensibles avec ce public qui réagit à des toutes petites choses. On le sent très présent et très, très réceptif.
Il y a différentes qualités de public.
Et oui.
Et oui. Oui. Il y a des publics qui sont meilleurs que d'autres.
Exactement.
Ça varie chaque soir.
Et ça varie chaque soir. Et c'est vrai que...
J'ai passé ça varie dans une phrase où on parle de théâtre.
Ouh là là. Je ne suis pas un grand fan de ça varie, mais ça c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, oui. On parlait donc de Jérôme Savary.
De Jérôme Savary, oui.
Exubérant quant à sa propre personne.
Et tout à fait exubérant, et aussi dans ses spectacles.
Aussi.
Excessif dans tous les sens du terme.
Ouais. Et très politique aussi. Oui. Voilà. Ça, c'est peut-être une caractéristique du théâtre en France. Qui est assez différent d'ici.
Qui est assez différent et qui va pas très bien, il faut le dire.
Oui, parce qu'il y a justement, et je voudrais rebondir là-dessus, il y a inflation de stars de cinéma ou de télévision au théâtre en France. C'est-à-dire que certains directeurs des théâtres sont partis du principe que puisque un tel faisait de l'audience à la télévision, on allait voir ce que ça allait donner sur une scène de théâtre. Et donc, on voit des animateurs de télévision débarquer au théâtre et jouer, alors évidemment, des grands classiques très contemporains, par ailleurs adaptés au cinéma, comme Le Dîner de cons, comme L'Emmerdeur, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Je ne remets pas en question leur qualité, j'en sais rien, je les ai pas vus. C'est de toute façon complet 2 ans à l'avance. Voilà. Enfin, peu importe, il y aura Johnny Hallyday bientôt qui va jouer Tennessee Williams.
Johnny Hallyday qui est aussi un bon acteur de cinéma, mais le théâtre, c'est un peu différent.
C'est différent, mais ce sera peut-être une bonne surprise.
Voilà, tout à fait. Non, mais ça peut être des bonnes surprises. Et certains qu'on connaît comme animateurs de télévision ou de radio ont d'abord été comédiens. Donc, voilà.
Nous en avons quelques exemples dans cette maison.
Qui sont d'excellents comédiens, il faut le dire.
En plus.
Voilà, donc on peut être surpris. Je pense que c'est important. Je parlais tout à l'heure de donner la difficulté du théâtre par rapport au connu. C'est-à-dire que les gens doivent avoir quand même quelques indices pour venir. Donc l'idée est de prendre des locomotives. C'est bien d'avoir des noms qui attirent ou qui donnent envie de venir. Mais il ne faut pas s'en contenter. Et donc, ça doit être des locomotives. Et il faut que les gens suivent ces noms connus pour découvrir des choses qui peut-être les toucheront plus, qui sont les wagons pas connus ou pas encore connus. Quoi.
Je vous ai dit tout à l'heure que nous vous offrions des places pour... Enfin, ce n'est pas nous, c'est vous. François Marin qui offrait des places à nos auditeurs.
C'est le théâtre de l'Orangerie. C'est le théâtre de l'Orangerie. Dont il faut parler aussi.
Nous allons en parler justement. C'est dans le parc de la Grange à Genève. Alors, un seul numéro de téléphone pour obtenir quelques invitations, c'est le 078 860 61 64. 078 860 61 64. Soyez gentil avec la jeune femme que vous aurez au bout du fil, car c'est la première fois qu'elle répondra à autant d'appels. Qu'elle aura noté toutes vos coordonnées. L'Orangerie, le parc de la Grange à Genève, pour vous, c'est l'occasion de délocaliser votre théâtre. C'est pas la première fois que vous allez là-bas. Je me suis trompé. Alors voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est aussi un espace assez incroyable, il faut le dire.
Alors c'est un espace incroyable que l'Orangerie, qui a été pendant 2 ans dans la tour vagabonde. Et là, on retrouve l'Orangerie. Il y a la scène d'origine a été refaite. Ouais. Et puis, elle a été utilisée pour le spectacle précédent, qui est La peur de Virginia Woolf, d'Albi, mis en scène par Valentin Rossier. Et là, bêtement, sur les deux spectacles, parce qu'on a une particularité aussi sur ce spectacle, le grand retour de Boris Cyrès, on le joue à 18h, certains le soir à 19h, mais principalement à 18h, parce qu'à 21h, il y a un autre spectacle, c'est L'Ilium de Ferenc Molnár. Et on peut voir les deux pièces dans la même soirée. On parlait de 6 ou 7. Là, vous pouvez faire deux pièces dans la même soirée. C'est tout à fait agréable. C'est deux univers assez différents. Et puis nous, ça nous oblige aussi à être dans la dynamique d'Avignon, à démonter le décor. Chaque soir, on n'a pas besoin que les spectateurs y participent. On est suffisamment nombreux. Donc c'est aussi particulier. Et puis moi, j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est très sympa. Il y a une buvette dans laquelle on mange très bien, il faut le dire. Et puis, c'est estival, c'est très décontracté. C'est Frédéric Pollier qui en est le directeur, qui va signer un Cyrano, une reprise d'un Cyrano en août. Et puis il y a le dragon d'Evgeny Schwartz qui va se jouer à la fin de ce mois, tout prochainement. C'est une très très belle pièce que ce dragon, très festif. Non, je pense qu'il y a, si on n'a pas la chance de partir en vacances ou d'aller à Avignon, il y a des très belles propositions que dans à l'Orangerie.
Tout l'été.
Mmh. Et le dragon, c'est un spectacle tout public. Cyrano, ils sont une dizaine d'acteurs. Fred Pollier est un acteur, un directeur, un metteur en scène qui est ample, excessif, qui est un Rabelais, on va dire ça comme ça. Il jouait dans un Rabelais récemment. C'est le futur directeur du théâtre du Grutli, mais c'est un personnage extrêmement généreux, humaniste, et je pense que son Cyrano, il sera une force de vie qui sera assez formidable. Donc c'est vraiment des spectacles, le dragon aussi, à voir très prochainement, durant tout l'été, quoi. Donc allez à l'Orangerie, que ce soit Genevois ou venez plus loin. Ou autre, on a le droit, on n'a pas besoin de montrer son passeport. Et puis c'est dans le parc Lagrange, qui est un des parcs magnifiques de Genève. Il y a une très belle roseraie vue sur le lac. Donc
il y a une joie particulière à jouer dans ces endroits-là, de jouer en plein air, par exemple, lorsque le soleil se couche.
Je pense qu'il
fait encore cette espèce de chaleur qui remonte du sol.
Alors, oui, il y a une vraie joie à jouer dans des endroits comme ça parce que c'est très singulier. Il y a un autre élément, c'est la respiration de la nature, la chaleur, l'air ambiant. Donc c'est très particulier. Mais c'est aussi important pour moi lorsqu'on joue dans des théâtres qui ont une âme. Et il y a certains théâtres qui sont très neufs, qui sont très bétonnés et il n'y a pas encore assez de fantômes. Et on le sent.
Vous parlez du Crochetan, par exemple ?
Non, je ne parle pas du Crochetan. Non, je pensais à un autre théâtre qui est très jeune aussi, où on sentait, on a joué dans la première saison de ce théâtre, et ce théâtre, il n'avait pas encore de fantômes. Ouais. Je pense qu'on a rejoué 2 ans plus tard et il commençait à avoir des fantômes. C'est-à-dire qu'il faut un peu mouiller ses linges, il faut un peu salir, quoi.
Il faut habiter les lieux.
Il faut habiter le lieu, il faut que ça ne soit pas propre, on va dire ça comme ça. Le théâtre a souvent un rapport avec la merde. Enfin, c'est pas quelque chose de... Il faut que ça soit à la fois de l'or et de la boue, donc il ne faut pas que ça soit très propre. Je dis ça, et en même temps, dans tous mes spectacles, c'est très épuré, donc vous voyez, je ne suis pas une contradiction près. Mais non, jouer en plein air à l'Orangerie, c'est un lieu qui a une lumière particulière. Donc c'est... Oui, c'est une expérience à faire. Et puis, jouer l'été au Festival de la Cité, par exemple, qu'on a vu ces dernières semaines, là, c'est aussi très chouette, quoi. Il y a une rencontre avec le public. Les gens ne sont pas dans la même dynamique lorsqu'ils vont dans une salle de spectacle en plein hiver, par exemple.
C'est moins compassé aussi.
Il y a plus de passages. C'est rarement compassé au théâtre. On vient de moins en moins en habit, mais c'est vrai que c'est plutôt festif. Et là aussi, le Festival de la Cité, j'y étais et je trouve formidable parce que tout à coup, on peut. Alors, dans le Festival de la Cité, tout est gratuit, donc la culture est à portée de tous. Et en même temps, le danger, c'est qu'on soit. La culture demande du temps et qu'on ait un peu un côté supermarché. C'est-à-dire qu'on reste 5 minutes, j'accroche pas, je m'en vais, quoi. C'est un petit peu les limites de cet exercice, quoi.
La culture, là, en l'occurrence, effectivement, elle est gratuite. La culture est très subventionnée. Beaucoup de choses sont très subventionnées par ailleurs, sans qu'on le sache vraiment ou qu'on le dise.
La radio.
La radio, par exemple. Les radios, les radios privées aussi récupèrent une partie de
la manne.
De la manne. Mais ça, on ne le dit pas souvent. Enfin, en tout cas, les radios et télévisions privées qui se plaignent de notre monopole oublient régulièrement de dire qu'elles ont droit, elles aussi,
à
une partie de ses redevances. Enfin, voilà, il faut que chacun y trouve son compte. Vous pensez que c'est un modèle toujours viable à long terme, dans la mesure où le sentiment général est que l'argent public, ou public tout simplement destiné à la culture, va diminuant au profit de sponsors privés qui alors auront une exigence peut-être par rapport au théâtre, par rapport au sport aussi. On voit que de plus en plus des stades de foot portent le nom d'un sponsor, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Allemagne.
Alors moi je ne crache pas sur l'argent des sponsors ou des mécènes. La majorité des sponsors et des mécènes n'exigent pas telle pièce ou telle autre. Il y a une grande générosité des fondations, en fait, ici en Suisse romande. Mais cet argent, il n'est pas aussi important que l'argent public. Et l'argent public, c'est très important parce que ça implique que le théâtre est un service public, comme l'eau, le gaz ou l'électricité, disait Villard. Donc, il ne faut pas l'oublier en tant que créateur ou metteur en scène, chef de compagnie ou directeur de théâtre, c'est que
Vous sentez redevable.
Oui. Ouais. Oui, c'est important. C'est une chose que j'ai vraiment compris quand je me suis mis à travailler à Sion, à diriger le théâtre de Valère. C'est qu'on a une mission. On ne peut pas ne choisir que des choses qui nous font plaisir ou des esthétiques qui nous intéressent. Donc on a une mission d'amener le théâtre, des textes, de bons auteurs, de bons comédiens. On n'a qu'une seule mission, c'est la qualité. C'est la seule chose. Mais c'est de l'argent public, et donc c'est très important et de toucher le plus de monde possible et de faire de la médiation culturelle, puisque c'est le mot à la mode. Hein. Oui. Mais c'est important, je me sens redevable. Si la salle est vide à Valère ou dans une création, ça m'interroge sur mon travail. Ça ne m'interroge pas sur les moyens de promotion, mais sur mon travail. C'est-à-dire que si je n'arrive pas... Alors, si c'est la première est pleine et puis pas la suite, je m'interroge vraiment sur mon travail. Parce que là, ce ne sera pas les moyens de promotion qui seront en cause.
Mais le bouche à oreille, peut-être.
Et s'il est mauvais, voilà. Voilà. Mais je ne crois pas sur ce spectacle.
Non, je ne crois pas non plus. Le grand retour de Boris S. Donc, à partir de ce soir et jusqu'au 20 juillet, c'est à 18h dans le parc Lagrange à l'Orangerie. Un numéro de téléphone pour obtenir quelques invitations, le 078 860 61 64. Merci d'être passé nous voir, François Marin.
Merci.
On va se quitter avec une chanson de circonstance choisie par Jean-Baptiste Roumans, c'est Johnny Cash, Father and Son.
13h, 14h, à première vue.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Try to explain. When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way,
And I know I have to go away. I know I have to go.
Johnny Cash et Fiona Apple, Father and Son, chanson de Cat Stevens. Dire que nous avons parlé théâtre aujourd'hui avec François Marin, je vais vous donner un autre numéro de téléphone. Il y a vraiment un petit problème technique avec le téléphone qu'on nous a donné. C'est le 022 793 63. 022 793 63. Donc pour obtenir des invitations pour aller voir le grand retour de Boris S. au Parc Lagrange à l'Orangerie à Genève. Je vous recommande également l'écoute de Dardard tout à l'heure sur Espace 2 à partir de 17h. Vous pourrez y entendre Juliette Binoche parler de théâtre, Mademoiselle Julie, au Festival d'Avignon. Bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous, il est 2h.